Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Le pesant balancement des basses, les violons qui s'élancent vers le ciel, un rythme nerveux et obsédant que quelques mélopées rêveuses ne parviennent pas à calmer, c'était l'impressionnante danse des chevaliers tirée du ballet Roméo et Juliette de Serge Prokofiev, l'un des tubes avec Pierre et le loup de ce compositeur emblématique du XXe siècle. Roméo et Juliette, sans doute l'histoire qui aura le plus inspiré d'opéra, de ballet, de musique de scène, de poèmes symphoniques ou de comédies musicales de toute l'histoire de la musique. C'est, vous l'avez compris, à nos deux amants que notre preuve par Z hebdomadaire est consacrée, avec pas moins de 7 compositeurs de diverses nationalités, dont notre cher Prokofiev, auprès duquel je vous propose de retourner sans plus attendre. Nous voici donc à Vérone, en Vénétie, à quelques kilomètres du lac de Garde, dans le nord de l'Italie. Marchands, jongleurs et badauds s'affairent sur la Piazza dei Signori, accompagnés d'un ensemble instrumental acidulé, 2 mandolines, 1 cornet à piston, 3 trompettes, que rejoignent bientôt 2 clarinettes volubiles, les pizzicato des cordes et le rythme obstiné d'un tambour de basque.
Thank you.
Seiji Ozawa et l'Orchestre symphonique de Boston nous transportaient sur une place de Vérone avec cette ritournelle entêtante extraite du ballet Roméo-Juliette de Serge Prokofiev. Ce qui me frappe, à chaque fois que j'écoute le Roméo-Juliette de Prokofiev, c'est à quel point la musique est cinématographique. L'oreille voit. C'est particulièrement flagrant dans l'extrait que nous allons écouter maintenant. Nous sommes au deuxième acte du ballet, et lorsque Roméo décide de venger Mercutio, qui vient d'être tué sous ses yeux par Tybalt, les cordes de l'orchestre se mettent à gronder, martelant un motif rythmique obstiné. Puis le tempo s'accélère, les vents et les cordes s'opposent, et le combat s'engage, les violons se lançant dans une série de doubles croches effrénées jusqu'aux 15 coups des instruments graves de l'orchestre qui signent la mort de Tybalt, tandis que s'installe une impressionnante scansion funèbre, incarnant le malheur qui vient de s'abattre sur Vérone. Laurine Mazel était à la tête de l'orchestre de Cleveland et nous revivions avec lui ce tournant dramatique qui conclut de manière saisissante le deuxième acte du Roméo-Juliette de Serge Prokofiev. Mais si dans son ballet Prokofiev suit fidèlement la pièce de Shakespeare, d'autres compositeurs ont utilisé d'autres versions plus ou moins éloignées de l'histoire que nous connaissons. C'est par exemple le cas de Vincenzo Bellini, qui compose en 1830 l'opéra I Capuletti e I Montecchi. Alors plus de coups de foudre entre Roméo et Juliette lors du fameux bal, ni de scène du balcon, ni de mariage secret. Et au lever de rideau, Roméo est déjà coupable de la mort d'un Capulet, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du propre frère de Juliette. C'est que le librettiste de Bellini a utilisé non pas le texte de Shakespeare, mais des récits italiens antérieurs, écrits au XVe siècle par Masuccio Salernitano et Matteo Bandello. Dans l'extrait du premier acte que je vous propose d'écouter maintenant, Roméo est venu incognito négocier la paix entre les deux familles, tandis que les Montaigu s'apprêtent à attaquer les Capulet par surprise pendant les noces de Juliette avec Tybalt. Oui, parce que dans cette version, ce n'est pas à Paris que Juliette est promise. Roméo supplie alors Juliette de s'enfuir avec lui, mais ils sont surpris par Lorenzo Tybalt et Capello, le chef des Capulet, qui découvrent alors avec stupeur la véritable identité de Roméo et le lien qui l'unit à Juliette. Le temps est comme suspendu, les voix s'entrelacent a cappella, l'orchestre colorant peu à peu les émotions de ces cinq personnages que tout oppose. À la tête de l'Orchestre symphonique de Vienne, Fabio Luisi dirigeait l'extraordinaire quintette vocale tirée de l'opéra de Bellini, I Capuletti e I Montecchi, étonnant moment de grâce au sein d'un premier acte particulièrement agité et tumultueux. Alors je vous disais tout à l'heure que cet opéra ne comprenait ni bal, ni scène du balcon, ni mariage secret, mais on y trouve quand même, rassurez-vous, un vrai beau et grand duo d'amour. Il se situe à la toute fin de l'œuvre. C'est que, contrairement à Shakespeare, Roméo n'est pas encore complètement mort lorsque Juliette se réveille de sa mort factice. Et tous deux expirent dans les bras l'un de l'autre, mais en chantant naturellement, puisqu'à l'opéra, il n'est pas question de mourir en silence. Alors, dans ce que vous allez entendre maintenant, je ne suis pas bien sûr que vous arriviez à distinguer clairement Roméo de Juliette. En effet, dans l'opéra de Bellini, le rôle de Roméo est un rôle travesti, confié à une mezzo-soprano. Cette tradition de faire chanter un rôle masculin à une femme remonte à l'époque baroque, où les rôles principaux étaient souvent tenus par des voix aiguës, qu'il s'agisse de femmes ou de castrats. Au début du XIXe siècle, les castrats disparaissent des scènes d'opéra, mais la tradition des rôles travestis se maintient, notamment en Italie avec Bellini, Donizetti ou Rossini. une scène finale particulièrement inspirée, haletante et passionnée. Anna Netrebko était Juliette et Lina Garanča était Roméo. C'était le poignant final de l'opéra I Capuletti e Montecchi de Vincenzo Bellini et l'orchestre symphonique de Vienne était dirigé par Fabio Luisi. Il est maintenant temps d'aller sur les terres de Shakespeare et de faire connaissance avec le grand compositeur anglais Frédéric Delius. En France, on dirait plutôt Frédéric Delius. Enfin, quand je vous dis grand compositeur, cela dépend si vous êtes britannique ou pas. Au Royaume-Uni, ce contemporain presque exact de Maurice Ravel est considéré comme un très grand. Dans le reste du monde, il est nettement moins connu, il faut bien l'avouer, notamment des Français. C'est pourtant près de Fontainebleau qu'il passe une longue partie de sa vie et qu'il termine ses jours. Sa bio est assez amusante. À la fin de ses études, son père l'envoie gérer une plantation d'orangers en Floride. Mais plutôt que des agrumes, ce sont des notes et des mélodies qu'il a en tête. Deluce revient donc en Europe se former en Allemagne, où il fait la connaissance de Grieg, puis s'installe en France, en Seine-et-Marne, où il se lie au peintre Édouard Monck, Paul Gauguin et Yelka Rosen, une amie d'Auguste Rodin qui deviendra sa femme. En 1907, le couple écrit ensemble le livret d'un nouvel opéra, Roméo et Juliette au village. Comme vous allez pouvoir le constater, l'intrigue est une adaptation assez libre de la pièce de Shakespeare. Nous ne sommes plus en Italie mais dans la campagne suisse, et désormais Juliette s'appelle Vreli et Roméo, Sally. Les deux jeunes gens s'aiment, mais leur père se déteste, se ruinant en procès interminable pour la possession d'un lopin de terre. Persuadés que leur amour est sans espoir, les deux amants décident alors de mourir ensemble. Nous retrouvons donc la morale shakespearienne, les enfants ne doivent pas devenir les victimes des passions et des haines de leurs parents. Dans l'extrait que nous allons entendre, nous n'en sommes pas encore au drame. Roméo et Juliette, pardon, Sally et Vreli, marchent main dans la main en direction du jardin du paradis. Oui, mais le jardin du paradis, figurez-vous que dans l'opéra de Deluce, c'est le nom d'une auberge où viennent se réfugier les pauvres et les vagabonds, véritable havre de paix dans lequel on oublie un temps sa misère. Et comme dans le Roméo et Juliette de Berlioz, cette magnifique scène d'amour est confiée à l'orchestre seul. Aucune parole, si ce n'est l'émotion du hautbois, la tendresse de la clarinette, l'élan amoureux des violons. Difficile de s'extraire de cette rêverie passionnée du compositeur anglais Frédéric Delius, Frederick Delius si vous préférez. Dans la fosse, le Royal Philharmonic Orchestra déployait ses couleurs chaudes et voluptueuses sous la baguette de Vernon Handley. Alors après cette page amoureuse, nous revenons maintenant à la danse pour découvrir que Prokofiev n'est pas, contrairement à ce qu'on dit toujours, le premier compositeur à avoir écrit un ballet sur Roméo et Juliette. Il a été devancé quelques années plus tôt par un jeune compositeur anglais, Constant Lambert. C'est en effet en 1926 que Serge Diaghilev, le célèbre fondateur des ballets russes, demande à Lambert, alors âgé de 19 ans, la musique d'un nouveau ballet. N'ayant encore jamais fait appel à un compositeur anglais, Diaghilev choisit un sujet qu'il estime typiquement britannique, Roméo et Juliette. Leur collaboration deviendra sur la fin un peu tumultueuse, Diaghilev modifiant la chorégraphie sans consulter Lambert et engageant contre l'avis du compositeur de nouveaux décorateurs, Max Ernst et Miro, excusez du peu. Lambert veut quitter la production et la tension est telle que Diaghilev fait garder les partitions par la police, craignant que le compositeur ne reparte avec. Pour couronner le tout, la première parisienne du spectacle se fait dans la cohue, plusieurs artistes surréalistes, Aragon et Breton en tête, s'offusquant bruyamment de la collaboration entre deux des leurs, Ernst et Miro, et un bourgeois décadent comme Diaghilev. Naturellement, celui-ci se réjouit d'une telle publicité, le tout Paris se pressant pour aller voir le ballet qui a provoqué une émeute, comme cela avait été le cas 13 ans plus tôt pour le Sacre du Printemps. L'écriture rythmique, des motifs mélodiques simples, énergiques et une certaine inspiration néoclassique rappellent d'ailleurs indéniablement Stravinsky, le compositeur fétiche de Diaghilev et des ballets russes. Norman Delmar dirigeait l'English Chamber Orchestra pour cet extrait du ballet Roméo et Juliette de Constant Lambert, donc historiquement la première version chorégraphique de la célèbre pièce de Shakespeare. Dans ce ballet, l'histoire de Roméo et Juliette est d'ailleurs à la fois transposée et mise en abîme, puisqu'il s'agit d'une compagnie de danse contemporaine qui répète le spectacle Roméo et Juliette. L'action de Shakespeare est respectée dans les grandes lignes, mais la fin est plutôt cocasse. Alors que le rideau tombe, les danseurs qui interprètent les rôles de Roméo et de Juliette ne reviennent pas sur scène saluer, ils se sont enfuis en avion. Et puisque nous parlons de liberté prise avec l'original, comment ne pas évoquer le compositeur tchèque Jiří Antonín Benda, qui signe en 1776 le premier opéra sur Roméo et Juliette, mais en imaginant une fin heureuse dans laquelle ni Roméo ni Juliette ne meurent. Rappelons que Benda était l'un des compositeurs favoris de Mozart, qui s'en est inspiré pour écrire ses Singspiel, vous savez, ces opéras en langue allemande qui font alterner air et dialogue parlé. Le Roméo et Juliette de Benda a donc cette particularité de se terminer dans le bonheur, puisqu'au moment où Roméo s'apprête à se porter un coup de poignard fatal, Juliette se réveille juste à temps pour l'en empêcher. Frère Laurent arrive alors et les trois amis fêtent leur retrouvaille. Quant au père de Juliette, il est tellement heureux que sa fille ne soit pas morte qu'il se réconcilie sur le champ avec les Montaigu. Vous n'y croyez pas ? Moi non plus.
Strömen floss
in Zwietracht
abzuschwören.
Tout est bien qui finit bien dans ce final de Roméo und Julie, un Singspiel de Iri Antonin Benda écrit en 1776, une adaptation du drame de Shakespeare dans laquelle Montaigu et Capulet célèbrent leur réconciliation dans la joie, heureux que Roméo et Juliette soient toujours vivants. Alors des versions musicales de Roméo et Juliette depuis la parution en 1597 de la pièce de Shakespeare, il y en a eu vraiment, mais alors vraiment beaucoup, et sous des formes assez diverses, opéra, musique de scène, symphonie, ballet, etc. Il existe même une ouverture fantasy signée Tchaïkovski. Alors qui dit ouverture dit en principe opéra. Pas forcément. Tchaïkovski a certains temps envisagé d'écrire un ouvrage lyrique sur les deux amants de Vérone, mais il s'en est finalement tenu à cette pièce symphonique composée en 1869, dont chaque thème évoque un élément central de la pièce de théâtre. La lutte entre les deux clans ennemis, la piété de frère Laurent, la mort, et par-dessus tout, ce thème d'amour dont Rimsky-Korsakov dira qu'il est l'un des plus beaux thèmes de toute la musique russe.
Thank you.
Claudio Abbado dirigeait le rutilant orchestre philharmonique de Berlin dans cet extrait du Roméo et Juliette de Tchaïkovski, un véritable concentré des émotions qui traversent le drame de Shakespeare. Et pour finir notre preuve par Z consacrée aux différents Roméo et Juliette de l'histoire de la musique, je vous propose une déclaration d'amour à notre irrésistible Juliette, ici nommée Maria. Je pense bien sûr à l'héroïne de l'une des plus célèbres adaptations modernes du drame de Shakespeare, le West Side Story de Leonard Bernstein. La première a lieu à Broadway en 1957. Le spectacle tient l'affiche pendant 772 représentations. Mais c'est la version cinématographique de 1961, récompensée par 10 Oscars, qui assurera définitivement la renommée mondiale de la pièce. Bernstein transpose la mythique scène du balcon à Manhattan sur l'escalier de secours de l'immeuble de Maria, l'ayant rencontrée un peu plus tôt dans un bal de quartier. Tony n'a désormais plus qu'un seul nom en tête.
Maria, the most beautiful sound I ever heard. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria,
Maria, Maria,
Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a song can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria.
Le ténor Larry Kirt nous chantait son amour pour Maria, un extrait du West Side Story de Leonard Bernstein, sans doute la plus célèbre de toutes les adaptations musicales du mythe de Roméo et Juliette. Et si vous n'êtes pas repu de l'histoire éternelle des deux amants de Vérone, eh bien vous pouvez toujours écouter les versions des Italiens Bernardo Porta, Pietro Carlo Guglielmi ou Eugenio Torriani, du français Edmond Gojac, des Allemands Sigismund von Rumling, Boris Blacher ou Daniel Steibelt, ou encore celle du croate Krezimir Fribetz. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Friconeau. Chef opérateur du son, Cédric Chatelus et Grégory Wallon. À la semaine prochaine.